Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Demandeurs d'asile, la France sous pression, c'est la une du Figaro de ce mercredi. Le journal s'est procuré les dernières statistiques en la matière, où l'on apprend que 88 000 demandes d'asile ont été déposées en 2016, soit 10% de plus que l'année précédente, et que le statut de réfugié est désormais accordé près de 4 fois sur 10, autrement dit, il ne l'est pas 6 fois sur 10. Commentaire du Figaro, le pays des droits de l'homme s'est montré plus généreux que par le passé. La réalité et la profondeur de cette générosité méritent sans doute d'être discutées. Pour les demandeurs d'asile, en tout cas, ce sésame du statut de réfugié est une première étape essentielle, mais une étape seulement dans un parcours chaotique, car les obstacles sont nombreux sur la voie qui permet d'intégrer la société française. Accès au logement, au travail, mais aussi maîtrise des codes culturels constituent autant de freins à une entrée réussie. Alors nous avons déjà consacré plusieurs émissions à ce thème de l'intégration par le passé, mais ce soir, nous avons fait le choix d'écouter les premiers concernés, de les faire discuter avec un spécialiste de ces questions, et ce, en posant la question suivante. À quoi faut-il renoncer pour s'intégrer ? Et c'est une question que nous allons poser notamment à des usagers d'une maison de quartier à Paris, maison de quartier qui se trouve dans le 12e et qui a entre autres mission d'accompagner depuis de nombreuses années des personnes dans leur démarche d'intégration. Parmi ces personnes, alors je vais préciser tout de suite aux auditrices et aux auditeurs que je vous appellerai par vos prénoms simplement pour ne pas vous mettre les uns et les autres en difficulté, vous ou vos familles qui pour certains sont restés dans les pays d'origine. Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Vous êtes centrafricain. Bonsoir. Bonsoir Ousmane.
Bonsoir.
Vous venez de Guinée et vous avez avec vous un de vos compatriotes, Amadou. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Farida, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'origine marocaine, vous êtes franco-marocaine. Oui. Vous avez une situation un petit peu différente, on va le voir dans la discussion, puisque ça fait déjà de très nombreuses années que vous êtes en France. Oui. Et je vous ai proposé de rencontrer un sociologue et démographe, Patrick Simon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et démographe à l'INED, qui est l'Institut National d'Études Démographiques. Et vous avez coordonné l'enquête Trajectoire et Origine, qui a été publiée début janvier 2016, enfin en janvier 2016 en tout cas. Et qui consiste en quoi d'ailleurs cette enquête ?
C'est une enquête auprès de 22 000 personnes qui parlent des trajectoires des personnes d'origine immigrée ou de leurs enfants, les descendants d'immigrés, et qui regardent leur situation dans l'ensemble des domaines de la vie sociale.
Ouais, et qui fait aussi un comparatif d'ailleurs avec ceux qui n'ont pas d'ascendance étrangère pour voir justement comment se passe le processus d'intégration, s'il y a des difficultés particulières. Ça va justement être l'objet de la discussion de ce soir. Alors je précise d'ailleurs qu'avec les membres de cette maison de quartier, on se connaît déjà un petit peu. On a eu l'occasion une fois de parler de ce sujet de l'intégration et c'est ce qui nous a donné l'idée d'en faire une émission qui n'aura pas particulièrement de valeur scientifique, c'est-à-dire on n'a pas invité un échantillon qui serait représentatif de la population, soit immigrée, soit d'origine immigrée française, mais voilà, il se trouve qu'on avait des choses et qu'on avait envie de discuter tous ensemble. Serge, donc vous, ça fait quelques mois déjà que vous êtes en France. C'est un pays que vous connaissiez déjà par le passé, mais la toute dernière fois que vous êtes arrivé, c'était dans l'idée de venir vous y installer, au moins pour une durée un petit peu longue. Est-ce que vous vous souvenez et de votre tout premier jour en France en tant que futur résident? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué ce jour-là?
Oui, merci Hervé. Effectivement, ça fait quelques mois que je suis en France. Et là, je suis en pleine démarche d'insertion socio-professionnelle. Et effectivement, quand je suis venu, j'ai rien vu de particulier parce que là, je suis reçu comme un étranger qui veut s'insérer, qui a des démarches à faire. Donc j'ai été reçu comme un étranger dans cette boîte et dans ce cabinet qui m'a reçu pour faire les démarches. Donc j'avais rien reçu de particulier.
Quand vous dites j'ai été reçu comme un étranger, est-ce que ça veut dire que vous avez été accueilli différemment de la façon dont vous vous attendiez peut-être à l'être ?
Au fait, j'ai pas été très déçu par l'accueil. Mais dans le cadre des échanges que j'ai eus au début, mon interlocuteur me fait savoir que je suis étranger. Et donc là, j'ai un long chemin à faire, vraiment dans cette démarche-là. Et puis voilà.
Ousmane, est-ce que ça a été à peu près la même chose, la même impression pour vous quand vous êtes arrivé ici en France? Vous aussi, hein, ça fait quelques mois hein, que vous êtes
justement,
ici.
Oui, justement, ça fait aussi quelques mois que je suis là. Et du coup, vu mon statut par rapport à la profession que moi j'exerçais dans mon pays, dès que je suis arrivé, c'est vrai, j'ai contacté directement la maison des journalistes de France de Paris.
Voilà, puisque vous êtes journaliste.
Voilà, et donc par rapport à ma situation, et du coup, cette maison, ils m'ont orienté vraiment vers des, en tout cas, la structure vraiment habilitée vraiment à pouvoir gérer ma situation. Parce que là, il faudrait d'abord, non seulement quand vous venez dans cette situation, il faudrait faire une demande. Et donc, on m'a, là-bas à la maison, on m'a reçu et puis on m'a dit, voilà, la démarche que vous devrez mener pour pouvoir vraiment vous stabiliser d'abord. Et puis après, vraiment, au fil du temps, maintenant, vous allez voir maintenant ce qui va se dérouler. Donc, je n'ai pas eu en tout cas une mauvaise impression. L'accueil, vraiment, c'était pas mal.
Vous êtes l'un et l'autre en attente, hein, c'est ça, d'une réponse à votre demande d'asile, hein, c'est bien ça, Serge et Ousmane?
Oui.
Oui, mais concernant, je suis déjà bénéficiaire de la protection subsidiaire. C'est une protection internationale. Lorsqu'on dépose une demande d'asile, et on s'attend à trois situations. Soit c'est le refus, soit si on peut être accepté comme réfugié, avoir le statut de réfugié, soit avoir le statut de bénéficiaire de protection subsidiaire.
Alors Amadou, on ne vous a pas encore entendu, puis ensuite on écoutera aussi Farida et Patrick Simon. Amadou, vous, est-ce que vous vous retrouvez, vous reconnaissez ce que vous avez vécu dans les témoignages de Serge et de Ousmane?
Oui, je reconnais, c'est presque la même chose, mais ça évalue, c'est pas la même. Moi, j'ai au niveau de la santé, moi aussi j'ai déposé, je n'ai pas eu d'énormes problèmes pour le moment. J'attends.
Vous attendez depuis longtemps?
Non, à peu près 3 mois. On m'a dit dans 1 mois et quelques aussi, ils vont me donner les résultats.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement frappé, vous, quand vous êtes arrivé en France, où vous vous êtes dit, peut-être que je suis un petit peu décalé par rapport à la culture ou à la société française?
Parce que quand tu rentres dans un pays que tu n'as pas l'habitude de vivre comme les autres, tu vas avoir quelque chose qui va t'étonner. Mais ce n'est pas aussi trop dur pour moi à rapport que je pensais. Quoi.
Et vous pensiez quoi?
Parce que je pensais que ça va être dur plus que ça. Mais à rapport que j'ai trouvé les Français, ils sont bien accueillants à rapport... C'est ce que j'ai pensé, quoi.
Bon, alors on a 3 témoignages extrêmement plutôt positifs hein, pour l'instant sur l'accueil de la France. Alors, vous, Farida, c'est différent parce que oui. Ça fait déjà quelques années que vous êtes en France. Vous êtes française, franco-marocaine. Vous êtes arrivée petite en France. Ouais. Ce sont vos parents qui ont fait ce choix de l'immigration. Est-ce que c'était quelque chose qu'on racontait en famille, cette immigration et cette arrivée en France? Est-ce qu'ils vous ont transmis cette mémoire-là?
Disons, le français et la culture française, moi je l'ai connu déjà au Maroc, avec les Français même. Hein. Donc j'ai vécu les deux cultures en même temps. Bon, maintenant c'est vrai, en arrivant ici, c'était un peu, disons, différent sur le climat, la nourriture, plein de choses. C'est vrai aussi que mes parents nous transmettaient évidemment plein de choses hein, pour notre éducation. Hein. Voilà. Et
Vous racontez peut-être aussi des difficultés qui pouvaient être les leurs être marocain venant s'installer en France?
Peut-être pas mon père, ma mère un petit peu, oui. Ma mère, il avait du mal à s'adapter ou peut-être même à s'intégrer. Ça. Bon, c'est vrai qu'il faut dire que les gens, lorsqu'ils vivent un certain temps de leur vie dans un pays d'origine, on a du mal à leur demander qu'ils s'intègrent, j'en sais pas, dans un laps de temps, je dirais moyen ou court ou quelque chose comme ça. Il faut de temps et encore, les gens, ils vont pas couper vraiment les cordons avec les origines. Donc, ils gardent quand même toujours cette culture. Eh bien, évidemment, comme on le sait tous, ces gens-là, ils retournent tout le temps en vacances dans ces pays et sous ressources. non-stop. Voilà.
Alors, on va aller justement sur ces questions d'intégration et puis discuter un petit peu tous ensemble pour savoir ce que ça signifie pour vous. Mais je voudrais aussi qu'on écoute Patrick Simon. On a évoqué, je l'ai fait à dessein, la première impression et le premier accueil qui a été celui de nos invités de ce soir. C'est vrai qu'il y a une forme de tradition de l'accueil en France, la France qui serait une terre d'asile. Est-ce que c'est, ce que vous avez vu pu observer, vous, dans vos différentes enquêtes, une tradition qui est une tradition un petit peu fantasmée, disons, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose d'absolument réel?
Les conditions d'arrivée en France varient considérablement dans le temps, d'abord, parce qu'arriver dans les années 60 ou 70 ou aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose. Et puis, ça dépend d'où on vient et dans quelles conditions. Demander l'asile, c'est pas la même chose que d'arriver en étant cadre supérieur avec un contrat pour aller dans une grande entreprise. Les cas de figure ou de rejoindre son conjoint, son mari ou sa femme avec ses enfants. Et là, on a déjà un logement, on arrive dans des conditions où on a déjà la plupart des choses nécessaires pour commencer sa vie dans le pays. Donc, ça varie assez considérablement. Le temps d'attente pour les formalités administratives est très long. Il est très long, là, on l'a entendu, plusieurs mois, voire des fois quelques années. Les demandes d'asile, surtout, sont traitées avec des engorgements, donc ça prend beaucoup de temps. Et les conditions d'attente sont pas toujours faciles, parce que, finalement, on n'a pas beaucoup de droits à ce moment-là. Il faut être soutenu par des associations. Les institutions sont là aussi, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. Donc, on peut dire que l'accueil s'est peut-être amélioré récemment, mais néanmoins les conditions restent difficiles et ça prend pas mal de temps, et donc ça c'est les conditions matérielles, mais après il y a aussi les conditions, vous avez soulevé des questions d'ordre culturel, enfin le choc ou la découverte d'un autre contexte, et ça aussi on a entendu Farida en parler, le temps de l'intégration c'est un temps très long, hein. Stabiliser sa situation, trouver un logement, un emploi, ce qui est déterminant. Ça peut déjà prendre quelques mois, années, mais par ailleurs, tous les changements qui sont suscités par la vie dans un nouvel environnement, ça se calcule sur plusieurs années, voire on passe son temps à changer en fait.
Alors vous, qui Farida justement, qui êtes en France depuis de très nombreuses années, qui êtes française, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, après ce temps long, pleinement intégrée à la société française, ou est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas être une Française à part entière, du fait peut-être de votre double culture?
C'est vrai que moi, je suis intégrée, je suis quelqu'un qui est facile à la communication avec les autres, etc. Ça, c'est ma propre nature. C'est vrai que par moment, je ressens ce genre de pousser l'autre, parce qu'on ne l'apprécie pas. Mais moi, je pense que moi, aujourd'hui, avec tellement de migrations, tellement de couleurs et des ethnies, etc., par rapport à une époque. Voilà, donc c'était une époque, bien sûr, avec le froid, où il y avait moins de migrés, je pense, par rapport à aujourd'hui.
Vous voulez dire que c'était plus facile il y a quelques années?
Il y avait plus de confort, plus d'accueil, plus de choses administratives qui étaient un peu plus faciles, parce qu'on recevait les papiers beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces problèmes aussi politiques entre certains pays ou des pays en guerre, comme les camarades. Mais nous, on n'a pas vécu ça. Donc, je pense que c'était quand même quelque chose de très, très facile pour mes parents, bien que pour nous aussi. On était bien accueillis. On avait des assistantes sociales, par exemple, qui venaient regarder si on est bien. Or, aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'ils ont aussi changé en France.
Alors, vous avez évoqué, Farida, la question des papiers. Est-ce que vous diriez les uns et les autres, Serge, Amadou et Ousmane, que pour vous, c'est la première des priorités? C'est-à-dire, pour s'intégrer dans une société, il faut d'abord avoir une sorte d'existence officielle, Ousmane?
Oui, là, tout à fait, parce que là, avec le statut qu'on a, parce que moi, d'abord, je suis pas encore passé devant la commission qui doit statuer sur mon dossier, et du coup, je ne peux rien faire d'abord tant que vraiment je n'ai pas une réponse de cette structure-là. Donc, du coup, je suis dans l'attente. Et là, donc, ça, c'est pas, en tout cas, on ne peut rien faire, que ce soit en matière de formation, en matière d'emploi, en matière de, voilà, donc, du coup, je suis dans le statu quo. Donc, tant que je ne passe pas devant cette commission. Donc, pour moi, c'est une attente, c'est vrai, comme l'a dit. C'est une longue attente, parce que si, des fois, ça peut prendre 9 mois, une année ou plus. Bon, là, Maintenant, on ne sait pas maintenant qu'est-ce que ça va donner, mais c'est une attente vraiment qui est aussi longue, pour le dire.
Serge?
Oui, mais juste pour rejoindre Ousmane de ce qu'il vient de dire, moi je suis un peu en avance par rapport à lui, parce que je suis venu un peu tôt, mais je crois que nous suivons le même trajet au fait. Effectivement, moi j'ai mis 12 mois pour qu'on puisse me donner la possibilité maintenant de travailler. Donc, il va falloir passer devant l'OFPRA, comme il l'a dit. Et maintenant, c'est à partir de là, maintenant, que vous avez l'autorisation, maintenant, de travailler. Donc, avant de passer par l'OFPRA pour décider de votre demande, vous ne pouvez rien faire. Bon, c'est un temps qui est long, c'est dur à passer. Vraiment, c'est dur, mais c'est exactement ce qu'il a expliqué.
Et bon, vous y voyez un frein à votre intégration, c'est-à-dire, voilà, en tout cas, ça la retarde de manière très forte, cette
oui,
intégration.
Oui, exactement. Le délai des dossiers, déjà, lorsqu'on n'a pas l'autorisation de travailler, on peut pas travailler non plus. Et donc là, on peut pas vraiment mener à bien les démarches d'insertion, parce que l'insertion, c'est socio-professionnel. Et si on n'a pas la possibilité de travailler, mais voilà, on reste comme un spectateur qui peut pas agir, quoi, qui peut rien faire, quoi.
Amadou?
Oui, c'est vrai, c'est la même chose, parce que quand tu n'as pas de papier, tu n'as qu'un droit. Tu ne pouvais rien faire. Comme ils viennent de dire, tu n'as qu'un droit. Tu demandes qui que ce soit, si ce n'est pas l'association, ils ne pouvaient pas t'aider.
Ça veut dire que vous, par exemple, Amadou, vos journées, elles se déroulent comment dans l'attente de ces papiers, de ces droits?
Et la journée, c'est en train de balader entre les secours populaires et certaines associations qui font le cours. Et avec les relèves 59, j'ai fait les cours avec eux. Toute la journée, j'ai en train de faire les cours.
Des cours qui vous servent à quoi, par exemple?
Cours français, parce qu'il faut intégrer normalement, il faut connaître la réalité de la France. Donc, tous les jours que j'ai en train d'aller à l'école, pour le moment, que je sais que j'ai fait la journée.
Alors Patrick Simon, là on voit qu'il y a deux éléments qui sont importants dans la réussite, enfin même si là nos invités, enfin trois d'entre eux en tout cas sont au début de leur parcours d'intégration, mais deux éléments très importants, à la fois la maîtrise de la langue qui fait d'ailleurs aujourd'hui, enfin depuis quelques années déjà, partie d'un parcours officiel, c'est-à-dire pour s'intégrer il faut signer un contrat d'intégration républicaine. Là, il y a une loi qui est passée au printemps dernier relative aux droits des étrangers en France. Et puis la question de l'accès au travail, qui est vraiment la question essentielle. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude que vous avez menée avec l'INED.
Oui, bah, tout à fait. Enfin, on comprend très bien pourquoi l'accès au travail joue un rôle aussi important, ne serait-ce que pour avoir des ressources. Et puis, c'est là aussi qu'on rentre plus en contact avec le reste de la société. Donc, ça fait deux bonnes raisons pour pouvoir obtenir cette autonomie à travers le travail. Alors, on a compris que les statuts administratifs ne rendent pas les choses simples. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile, tant qu'ils n'ont pas encore eu leur statut, ne peuvent pas travailler. Et donc, il y a une sorte de paradoxe qui est que on les met en attente. Une espèce de marge qui peut durer un certain temps. Ils n'ont pas non plus l'autonomie financière et donc voilà, ils sont dans cette zone grise qui les place en difficulté. Et deuxième chose, on a un deuxième problème, mais qui n'est pas propre à la France, qui est la question de la reconnaissance des diplômes. Et là aussi, on a des soucis de reconnaissance de ces diplômes. Plus ou moins importants qui ont été obtenus dans les pays d'origine, et retrouver un travail dans sa filière d'activité avec les niveaux de qualification qu'on a, on observe qu'on a souvent une déqualification, un déclassement, c'est-à-dire que finalement les immigrés trouvent un travail un peu en dessous de leur capacité parce que on ne reconnaît pas la valeur de leur expérience. Et ça fait un deuxième choc qui va les obliger à accepter des choses qui ne sont pas nécessairement ce qu'ils voulaient faire au départ.
Alors justement, parce que ce soir on pose la question, hein, même si c'est une question un peu générique pour aller dans une discussion un petit peu plus évidemment complexe que ça, mais à quoi faut-il renoncer pour s'intégrer? Serge, est-ce que ça fait aussi partie de ce que vous êtes peut-être en train de réaliser aujourd'hui dans votre parcours d'intégration, de se dire bah, je n'aurai peut-être pas ou sans doute pas le statut professionnel que j'avais dans mon pays d'origine?
Oui, exactement. Ça, c'est, je suis vraiment d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Au fait, il faut, dans le cadre des démarches, c'est important de faire reconnaître son diplôme. Si on a passé autant d'années dans les études, avoir des diplômes, bac plus 4 et 5, c'est important. Et ici, il y a des structures qui nous accompagnent dans cette reconnaissance de diplôme. Il y a le CIEP qui est là. Et le tout, pour nous, c'est pas vraiment la reconnaissance du diplôme qui est important, mais la reconnaissance des connaissances, des aptitudes que nous avons développées chez nous et que nous pouvons donc transposer. Donc c'est ça qui est plus important. On peut nous reconnaître le diplôme, comme moi, il n'y a pas de souci. Hein, je n'ai pas passé 2 semaines pour qu'on reconnaisse mon diplôme de bac plus 4 que j'ai, mais ça ne m'ouvre pas vraiment la porte. Ça ne m'ouvre pas vraiment la porte. Les difficultés sont là. Il faut, malgré mon niveau, malgré toutes les compétences que j'ai déployées, je suis obligé peut-être de revenir, faire des petites formations, tout ça. Donc, c'est vraiment un chemin qui n'est pas vraiment facile, vraiment même pour accéder à l'emploi, quoi. C'est ça.
Amadou, je crois que vous, dans votre pays d'origine, vous étiez dans le commerce. Oui. Est-ce que vous pourriez être amené à vous dire, bah voilà, je vais devoir changer de métier parce que je ne vais pas pouvoir exercer ce métier-là en France?
Oui, j'ai obligé parce que c'est pas vu ça la même manière que c'est dans notre pays. Donc, c'est pour cela que je suis en train d'étudier pour voir quelle page je vais danser. Pour le moment, je n'ai pas vu d'abord. Quand on ne m'a pas donné les résultats de mon papier et comment aller au niveau de formation, je ne pouvais rien savoir où je peux aller.
Ousmane, pour vous, s'intégrer, ça peut vouloir dire renoncer au métier de journalisme?
Bon, pas forcément. Parce que là, on peut, si on prend dans un certain contexte, c'est vrai, parce qu'ici, le métier de journaliste, par exemple, chez nous, on peut le faire de façon générale, parce qu'un animateur chez nous, un animateur culturel, peut faire un reportage en matière politique, il peut animer autre émission, il peut faire beaucoup de choses, même la technique, il peut le faire. Est-ce que vous voyez? Mais ici, ce que j'ai constaté, quand tu es reporter, tu es reporter. Quand tu es animateur culturel, tu es animateur culturel. Tu ne sors pas de ce cadre. Et on voit, parce que j'ai un peu parcouru les sites pour voir comment est-ce que les différentes formations en matière de journalisme. Et tout est spécifié. Quand tu es envoyé spécial, tu restes envoyé spécial. Ça aussi, c'est un aspect du journaliste. Quand tu es rédacteur, tout et tout. Or, chez nous, en tout cas, tu peux faire plusieurs choses à la fois. Bon, ça, c'est dû aussi parce que non seulement il n'y a pas beaucoup, c'est vrai, de journalistes dans nos pays, et seulement, c'est pas forcément des gens qui sortent de l'école de journalisme. Une fois que tu exerces le métier plusieurs fois, quel que soit le métier, une fois que tu le répètes au fur de plusieurs années et que c'est dans ce métier que tu gagnes ton pain, ça devient automatiquement ton métier. C'est pas forcément faire l'école de journalisme. Donc, chez nous, tu peux voir au sein d'une radio, vous n'êtes pas nombreux, mais vous faites un peu de tout. La technique, vous êtes là-bas, quand c'est sur le terrain, vous allez politiquement, vous animez une à deux émissions différentes. Tout ça, c'est pour vraiment boucher les trous, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes au sein de la dite radio, si c'est une radio. Donc, au fait, ici, tout est spécifié. Donc, quand vous voulez faire, en tout cas, il faudrait choisir spécifiquement, soit tu es reporter, soit tu es animateur culturel, soit tu es animateur d'une émission thématique comme la vôtre, ou en tout cas, tu es en... Voilà. Donc, au fait, parce que quand j'ai parcouru un peu pour voir tout cela, j'ai dit, ben ici, donc chez moi, ce que j'englobais, je faisais en un seul coup. Ici, tout est spécifié, tout est détaillé. Donc, moi, je me dis, ça permet encore d'avoir une qualification. Donc, du coup, c'est pas trop mal, mais il faut en tout cas le temps, donner le temps au temps pour pouvoir vraiment y arriver, quoi.
Alors, s'intégrer, donc, il faut des papiers, il faut un travail, il faut aussi un logement. La question du logement, je sais que c'est quelque chose à laquelle vous êtes assez sensible, Farida, puisque voilà, vous avez un petit passé associatif important. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que vous avez été sensibilisé à ça, et peut-être aussi à la question de l'intégration des étrangers par le logement?
Justement, les gens, quand ils arrivent, il faut d'abord... c'est vrai que l'accueil, il est pas mal au niveau de certains bureaux, des établissements et tout. Donc, d'autres, peut-être pas. Moi, c'est vrai que je reproche aussi qu'on n'informe pas assez souvent les gens sur certains droits. certaines règles en France afin que les gens puissent déjà connaître certaines choses pour pouvoir s'intégrer correctement dans la société. Donc les gens, ils ignorent tellement de choses. Moi, je raconte ça quotidiennement, tous les jours. Hein. Et du coup, c'est devenu aujourd'hui un peu plus difficile hein, de faire comprendre aux gens certaines règles dans la société. Le logement, c'est vrai, ça a toujours été un problème à Paris, comme à peu près dans toutes les grandes villes des pays. Hein, donc, c'est très difficile. Alors, il faut bien sûr un salaire, il faut après un logement. Bah oui, bah, quand on a déjà un certain confort, bah, le reste, ça viendra petit à petit un peu plus facilement. Mais les deux choses qui sont très dures, c'est vrai que c'est le travail et le logement. Si on n'a pas ça, on ne peut pas vraiment renoncer à quoi que ce soit déjà de ses origines et même certaines choses de sa personnalité. Hein, donc, parce qu'on apprend hein, quand on vient dans des pays comme ça. C'est vrai qu'on apprend, on avance, on évolue par rapport à beaucoup de choses.
Et puis vous évoquiez cette connaissance des règles. Alors cette connaissance des règles, elle est censée être organisée parce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce contrat d'intégration républicaine entre l'État et la personne qui arrive, avec des engagements à suivre une formation civique sur les institutions et la société française, éventuellement une formation linguistique pour ceux qui en ont besoin. Et sur s'agissant de la formation civique, il y a deux modules qui sont proposés, c'est 2 fois 6 heures, c'est pas énorme, hein. C'est un sur les principes et les valeurs de la République française et un autre sur vivre et accéder à l'emploi en France. Est-ce que ça, de votre point de vue, Patrick Simon, c'est un progrès, une facilitation de l'intégration au sein de la société française?
Le contrat d'intégration est venu formaliser justement cet accord, en tout cas ces engagements réciproques entre la société et la personne qui est admise. En pratique, c'est vrai que les règles sont expliquées de façon assez succincte, hein, en 6 heures. Je pense que c'est assez compliqué de décrypter le fonctionnement d'une société en général et celle de la société française en particulier. Beaucoup de choses se font sans se dire. Mais c'est vrai pour tout le monde, d'ailleurs, pas que pour les immigrés. Hein. Donc c'est très compliqué de s'orienter à l'intérieur de cette société. Et alors toutes les questions administratives, l'accès au logement, s'orienter dans la société et dans les démarches, c'est quelque chose qui demande du temps. La connaissance des droits est pas évidente. Et c'est clair que pour les personnes qui arrivent, ça demande un type d'information qu'ils n'ont pas tout de suite et qui d'ailleurs on met beaucoup de temps à obtenir. Alors la question de savoir du renoncement à quoi, je trouve que c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait les immigrés savent pas à quoi ils vont renoncer. Parce qu'en fait, on le découvre petit à petit, en fait. On renonce pas à grand-chose. On découvre qu'on change au fur et à mesure qu'on développe sa vie. Donc en fait, c'est plutôt par rétrospectivement, après quelques années, on se dit « Ah bah tiens, voilà, il y a des choses que je pensais pas et que je pense, il y a des choses que je faisais pas et que je fais, il y a des choses que je ne fais pas et que je ne ferai peut-être jamais. » Et c'est cette transformation personnelle qui est en fait la marque de cette intégration. On a parlé de ce que les parents transmettent. Moi, ce qui nous a frappé dans l'enquête, c'est qu'on a posé la question, est-ce que vos parents vous ont parlé des conditions d'arrivée en France et ainsi de suite? Et en fait, on a été surpris. Beaucoup de gens n'ont pas de ces discussions-là avec leurs parents. C'est-à-dire, les enfants d'immigrés, connaissent vaguement à peu près les conditions, mais beaucoup de familles n'ont pas évoqué ça. Et ouais, notamment les épreuves, parce qu'on parle pas beaucoup des épreuves, on parle plutôt de ce qu'a marché. Et on parle pas de tout ça de façon très claire. Donc finalement, ce patrimoine de l'histoire de l'immigration dans les familles, il n'est pas aussi évidemment transmis.
Alors, et Serge et Farida veulent réagir, Serge.
Oui, juste pour rejoindre mes prédécesseurs sur ce qui a été dit concernant l'intégration. Et c'est vrai, nous sommes adultes, nous vivons dans un milieu où nous avons grandi avec une certaine culture. Alors là, s'intégrer pour nous, ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Et à travers le geste, à travers ce qu'on doit pas dire, ce qu'on doit dire, et tout ça, c'est assez complexe. Donc, ça vient progressivement, sans s'en rendre compte, à travers des petites erreurs peut-être qu'on peut faire par là, par-ci, par-là. Par exemple, moi, déjà, parler avec quelqu'un, ne pas le fixer, alors ça, c'est ce que moi, j'ai appris chez moi. Ça, c'est dans ma culture. Quelqu'un que tu respectes, tu ne peux pas le tutoyer, tu ne peux pas le regarder dans les yeux. Voilà, donc c'est une forme de politesse. Tu peux te lever ponctuellement les yeux pour dire que je suis en contact avec vous, mais pas le fixer. Alors là, ici, même en entretien d'emploi, si tu ne fixais pas, mais c'est un point négatif pour toi. Et tout ça, on l'apprend au jour le jour.
Voilà. Alors, on l'apprend au jour le jour. Est-ce que vous pensez que des formations un peu organisées, alors comme ces petites sessions-là qui existent dans le contrat d'intégration, c'est quelque chose d'utile? Ou bien c'est justement en apprenant au jour le jour, finalement, qu'on apprend le mieux les codes, finalement, de la société dans laquelle on arrive?
Oui, mais pour ces formations, je suis à 100% d'accord. Je suis d'accord pour ces genres de formations dans le cadre de notre intégration. Ces formations précèdent à chaque fois notre délivrance de titre de séjour. J'ai déjà suivi ces formations d'une journée à chaque fois, trois formations comme ça.
Et vous êtes d'accord
les valeurs, pour les connaître, voilà. les valeurs de la France.
Vous êtes d'accord parce que vous en avez besoin?
Oui, exactement. J'en ai vraiment besoin parce que je tiens à m'intégrer. Donc, c'est important de connaître les valeurs de la France, de connaître vraiment certaines exigences qui sont vraiment dans le pays, quoi. Comme les symboles, c'est important, c'est important.
Je vais revenir vers vous, Farida, mais je voudrais entendre la réaction Eda Madou et Doucement sur cette question. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, finalement, s'intégrer?
Ce que M. Sorge vient de dire, c'est pas facile, mais qu'il faut rester à côté des gens à l'école pour apprendre. Parce que quand tu n'as pas écouté les gens, tu vas trouver que... Par exemple, quand quelqu'un vient ici, il rentre à l'hôtel, il connaît pas la France. Mais quand tu viens pour intégrer réellement, c'est là que tu vas comprendre quel pays que tu es en train de vivre. Donc, il faut rester avec les gens à l'école, il faut faire les formations pour savoir quoi la France. Moi, je pense que c'est plus important.
Ousmane?
Oui, les formations, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est essentiel, c'est important. Et du coup, Serge a soulevé une partie par rapport à la fixation des personnes qu'on respecte. Chez nous aussi, c'est un peu comme ça. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne dois pas le fixer. Mais en dehors de ça aussi, parce qu'il y a, quand vous prenez aussi l'aspect religieux, quand vous venez, vous êtes musulman, la France est un pays laïque, c'est vrai, mais en majorité chrétienne. Donc, du coup, pour les musulmans, il faut vraiment aussi chercher ça aussi. C'est une forme d'adaptation aussi. Parce que quand vous venez, on ne vous dit pas de quitter votre religion. Mais dans l'aspect religieux, je veux dire, je vais évoquer le fait, par exemple, chez nous, un musulman, tu as droit à 4 femmes.
Oh non.
Voilà, tu as droit à 4 femmes. Donc ici, en tout cas, je n'ai pas encore lu tous les trucs, mais je sais que la loi ici, elle est interdite. On se marie qu'à une seule femme. Donc du coup, ça, c'est une façon de s'adapter progressivement. Voilà, donc nous sommes confrontés à cela. Donc on ne peut pas épouser 4 femmes ici, c'est interdit. Donc si vous avez ces connaissances-là, là, du coup, c'est une façon de s'adapter. Et là, on est obligé de se soumettre, de s'adapter, de n'épouser seulement qu'une seule femme. Ouais. Et chez nous, c'est l'homme qui est le maître de la maison. C'est lui qui dicte les règles, les principes. Mais en sorte, c'est lui aussi qui assure tout. Quand c'est la famille, quelqu'un est malade, c'est lui qui assume. Quand quelqu'un doit, pour vertir la famille, c'est lui qui assume. Le loyer, c'est lui qui assume. Tout, c'est l'homme qui assume. Donc, c'est pour la raison pour laquelle l'homme est le maître de la famille. Le chef de la famille est le maître de la famille. Donc, ici, la culture ici, c'est un peu différent. Quand vous allez, vous pouvez, avec votre conjoint ou votre femme, le loyer, vous pouvez vous partager les tâches. Dire, voilà, tu fais ça, tu fais ceci. Même les enfants, il faut prendre l'enfant pour l'amener à l'école, hein, porter l'enfant au dos avec le froid. Voilà, chez nous, vraiment, c'est pas la dictature, mais au fait, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, vous voyez, donc, c'est un peu au niveau culturel aussi, ça change aussi les choses. Donc cet aspect-là aussi, c'est important de connaître vraiment les valeurs de la France pour pouvoir vraiment s'adapter, vraiment ne serait-ce que pas à 100%, mais au moins vraiment pouvoir réduire ou minimiser les dégâts dans le domaine de l'insertion.
Si vous ne visez pas le 100%, vous visez quel pourcentage à peu près, Ousmane?
Bon oui, parce que quand je prends l'aspect culturel...
90%, 80%...
Voilà,
80,
voilà.
90%,
parce qu'on ne peut pas laisser sa religion pour transférer directement dans la région. Voilà, peut-être on peut dire tu ne peux pas épouser 4 femmes, oui, là, tu peux être d'accord sur ce principe parce que c'est un principe que tu as trouvé, tu n'es pas dans ton pays d'origine. Et puis, bon, il faut fixer les gens pour... Là aussi, on s'adapte. Maintenant, on fixe les gens. Pour tutoyer les gens, on le fait. Mais toujours en gardant vraiment certaines marges de respect, de politesse envers les gens.
Farida, vous vouliez réagir?
Oui, alors moi, donc 4 femmes, comme il le dit Ousmane, ça c'est la loi religieuse.
Oui,
la loi administrative, c'est complètement autre chose. Donc, on ne permet pas, je pense pas, que dans certains et beaucoup de pays, on autorise à un homme d'épouser 4 femmes.
Alors, en l'occurrence, ça, c'est le cas dans, ce sont, c'est dans le pays d'où
ben
vient,
oui, mais les pays, les pays, voilà. Voilà. Les,
oui, mais je voulais pas qu'on fasse un débat sur le fait de savoir si on peut ou pas. Voilà.
Ben, juste ça. Et du coup, ben, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dire que, voilà, les pays d'Afrique et d'Europe, ça n'a rien à voir. Il y a des pays qui se développent, d'autres qui sont trop évolués. Donc, c'est pas possible qu'on va mettre les choses à peu près pareilles. Hein. Donc, c'est normal, quand les gens ils viennent ici, bah, évidemment, ils vont renoncer à beaucoup de choses parce que ce qu'ils voient, là où ils voyagent, là où ils bougent, ils voient qu'il y a une grande différence. Donc, déjà, on ne vit pas beaucoup en communauté, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Donc, il y a tellement de choses qui font que... c'est vrai, ils ont un petit peu du mal au départ. Il faut des années et des années pour que les gens puissent s'habituer, s'adapter et s'intégrer ensuite. Mais c'est vrai qu'aussi, la France qui vient de faire maintenant pour informer les gens, c'est dommage qu'elle n'a pas fait ça depuis très très longtemps. À chaque fois, c'est comme pour la mixité sociale qu'elle a commencé à faire depuis quelques années afin que les gens s'intègrent, justement. Eh ben, c'est dommage qu'elle n'a pas fait ça aussi dans le temps. C'est ce qui a fait que les gens ne s'intègrent pas très, très bien.
Patrick Simon, cette question culturelle, elle est aussi importante, notamment parce qu'on voit que c'est un sujet extrêmement sensible aujourd'hui au sein de la société française. C'est-à-dire, il y a tout un discours anti-immigration qui est basé sur la crainte de voir l'identité culturelle française menacée par des arrivées trop massives d'étrangers. Et c'est vrai que quand on écoute finalement les témoignages-là, enfin, je trouve en tout cas que ça dédramatise totalement cet enjeu, quoi.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, finalement... globalement, les personnes qui vivent dans une société partagent les normes culturelles, les valeurs et ainsi de suite. Ces choses-là se produisent. Simplement, ce qu'on a du mal à définir, c'est quoi les valeurs et la culture en France. Il n'y a pas non plus d'homogénéité complète. Il y a une très grande diversité des références. Et donc, c'est logique que, selon l'endroit où on vit, selon les milieux sociaux dans lesquels on évolue, on ait aussi des pratiques qui peuvent être un peu différentes et à l'intérieur même de ceux qui n'ont pas d'origine immigrée. Donc, Le contexte dans lequel on doit s'intégrer, ou en tout cas participer à la société, est déterminant. Et là, le contexte aujourd'hui, en France, est assez raidi. Et ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des attentes qui sont supérieures à l'égard des immigrés qu'à l'égard du reste des Français. Et on a l'impression qu'il faudrait que les immigrés soient des super citoyens, performer complètement la culture, la connaissance de la société, respecter exact. Tout. Alors qu'en fait, par ailleurs, la plupart des citoyens français respectent la moitié des choses, ou une partie.
Et alors, Patrick Simon, que dans votre étude, vous notez quelque chose, alors moi qui m'a énormément surpris, par rapport à l'adhésion à l'identité française. Donc vous dites, alors les immigrés, les descendants d'immigrés adhèrent massivement à l'identité française. Et vous ajoutez, fait remarquable, le sentiment d'appartenance à la nation française se forge aussi parmi les personnes qui n'ont pas été naturalisées. Plus d'un étranger sur deux déclare se sentir français. C'est assez incroyable, ça.
Mais non, ça marche bien. C'est-à-dire qu'en fait, se sentir français, c'est pas uniquement lié à un statut juridique. C'est-à-dire le fait de vivre ici fait que on se sent appartenir. Et donc, ce sentiment d'appartenance est très, très répandu à l'encontre de ce qu'on raconte, par ailleurs, où on a une suspicion sur le fait que les immigrés ou leurs enfants pourraient ne pas appartenir ou se sentir membre de la société.
Très brièvement. Alors justement, Serge, Amadou et Ousmane, est-ce que vous vous sentez un peu français depuis que vous êtes en France, Serge?
Moi, je me sens un peu, mais pas trop.
Pas assez.
C'est vrai, hein, je fais un effort de m'intégrer, mais je sais que par-ci, par-là, on n'a pas eu le temps de tout détailler, mais il y a certains blocages par-ci, par-là. Et qui m'oblige donc à me sentir pas trop français.
Et vous, Amadou ?
J'ai bien envie.
On n'a pas senti encore parce qu'on n'a pas trop dit, mais comme il vient de dire, ça nous fait beaucoup de différence à rapport que respecter les plis âgés et la manière de parler les Français, c'est différent à rapport de nous. Donc, c'est beaucoup de difficultés pour le moment. mais on est en train de s'adapter petit à petit.
Voilà. Il faut de la, la patience et de la persévérance, on va dire. Et bah écoutez, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette discussion qu'on aurait pu poursuivre encore longtemps tant cette question est large. Serge, Ousmane, Amadou, Farida, Patrick Simon, merci à tous d'avoir participé à la discussion. Demain, on parlera d'ETA et du Pays Basque, changement radical de sujet. Tout de suite, je fais très vite hein, parce qu'on est déjà très en retard, le sommaire de ping-pong avec Géraldine.
Bonsoir,
et Xavier.
Alors, très rapidement, donc un plateau mode, style et scandale avec Denis Brunat, commissaire de l'exposition Tenue correcte exigée au musée des arts décoratifs, et Marielle Massé pour son livre Style critique de nos formes de vie aux éditions Gallimard.
C'est parfait. À tout de suite, juste après le rappel des titres.